Bonjour. Merci de votre participation, votre présence. Avant que nous ne commencions à aborder les différents sujets qui vont nous occuper toute cette journée, je vais tout de suite céder la parole à nos hôtes, responsables d'une part de la BPI et puis de la Cité de la Bande Dessinée, qui vont nous dire quelques petits mots, un petit mot d'accueil. Je cède la parole tout de suite à vous.
Merci. Pardon. Bonjour, bienvenue au Centre Pompidou et à la Bibliothèque publique d'information. Je me réjouis de cette journée qui s'annonce passionnante et je voudrais tout de suite remercier nos partenaires, en particulier l'Université Paris 13, l'Université de Limoges et bien sûr la Cité internationale de la bande dessinée qui ont rendu cette journée possible. Je me réjouis aussi en tant que directeur adjoint de la BPI, puisque auparavant, en tant que membre de la direction de la bibliothèque, j'avais pu suivre les débuts de cette étude qui a permis cette journée, une étude sur le lectorat de la bande dessinée. Nous avions eu, avec Françoise Godet, avec Christophe Evans, un petit peu de mal à convaincre au début. Et heureusement, nous avons reçu rapidement le soutien du ministère de la Culture, en particulier du service du livre et de la lecture, et aussi du département des études et de la prospective. La bande dessinée, au départ, ne paraissait pas peut-être, d'un point de vue purement institutionnel, un sujet suffisamment noble. Et heureusement, cette étude a pu contredire ce premier a priori. Au bénéfice de toute interprofession du livre. Nous avons mené cette étude en 2012, en 2011-2012, et il y a eu déjà une première parution du DEPS partielle, donc nous aurons une parution complète en 2014 sous forme numérique par la bibliothèque. Donc c'est déjà, en plus de cette journée, un apport, je pense, important à notre réflexion. Du côté de la bibliothèque, nous avons aussi avancé, puisque bien que nous ne proposions pas jusqu'à peu des collections de bandes dessinées, nous avons ouvert ce champ avec un espace que nous intitulons Entre nous, nouvelle génération, donc qui est destiné aux adolescents et aux jeunes adultes. Nous allons étendre d'ailleurs très prochainement un salon graphique que nous avons ouvert cette année, en lui adjoignant un salon jeux vidéo. Donc il y a un ensemble cohérent là qui est en train de se construire à l'image de ce qui se fait dans beaucoup de bibliothèques publiques. La particularité de la BPI étant que nous n'avons pas de service jeunesse. Et nous aurons d'ailleurs des collègues de la BPI qui viendront aujourd'hui de parler de cette expérience un peu particulière. Mais tout de suite, je vous souhaite à nouveau une très bonne journée de réflexion et d'échange sur ce thème au bénéfice de nos publics.
Merci beaucoup.
Oui, bonjour. Donc là, je vais parler au nom de la Cité internationale de la bande dessinée de Limoges d'Angoulême. On est ravis de prolonger ici avec la BPI et nos universités amies. Le travail entrepris depuis quelques années, notamment par l'université d'été de la bande dessinée à Angoulême, qui se mue maintenant en université permanente, puisqu'en fait ceci est aussi, on est aussi un peu l'émanation. Nous avions, il y a quelques années, consacré une bande dessinée à la bande dessinée bien ou mal culturelle. Nous étions penchés sur la question du lectorat en déplorant l'absence de données chiffrées, suffisantes, suffisamment pertinentes et surtout ciblées. Et voilà que cette étude à laquelle la BPI nous a fait l'honneur de nous associer remplit répond à ses espérances. Et donc, c'est une étude dont les premiers résultats ont effectivement déjà été publiés. Il nous a paru à tous qui étions impliqués qu'il fallait aller plus loin. Et c'est vrai que cette journée, une publication bientôt, ça permet d'aller donc plus loin dans cette réflexion, surtout pour nous à la Cité, où nous observons des publics dans toutes leurs pratiques de lecture. Nous avons une bibliothèque publique avec une salle de lecture très fréquentée, un prêt, du prêt aux collectivités, à des établissements scolaires, On travaille avec, en médiation également, mais on voit ce même public aller au musée, visiter les expositions, évidemment participer au festival qui a lieu dans notre ville 4 jours en janvier. Et donc on observe toutes ces pratiques différentes. Et donc là, nous allons pouvoir, pendant une journée, les analyser, les explorer plus en profondeur. Voilà, donc je vous laisse la parole pour cette journée. Merci.
Merci.
Merci encore à tous nos partenaires.
Merci. Alors, on va commencer cette journée par l'idée que nous avions avec mon ami Benoît Berthoud était, en guise d'introduction, de vous livrer un certain nombre d'observations, de remises en perspective sur la question des lecteurs et de la lecture de bande dessinée. Avant d'entamer, donc ça sera aussi l'occasion de présenter ce que fera juste après moi Benoît, de présenter les différentes interventions qui vont se succéder pendant cette journée. Mais avant ça, donc j'avais moi le propos de revenir, comme je le disais, sur la question des lecteurs et de la lecture avant l'étude qui va nous occuper aujourd'hui. Et alors avant, précisément, il n'existait pas véritablement de sources détaillées sur la lecture, les lecteurs de bande dessinée. Les rares enquêtes auxquelles il est possible de se référer remontent pour l'essentiel, en France en tout cas, aux années 1990. Et encore, celles-ci sont nettement imprécises, voire lacunaires ou alors indirectement informatives. Il va s'agir par exemple de données qui figurent dans les enquêtes plus générales, comme celles qui sont réalisées depuis les années 1970 par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français. Je pense que vous avez les uns et les autres déjà entendu parler de ces enquêtes qui sont menées régulièrement et livrées au public et qui constituent donc un véritable instrument de suivi des comportements des Français dans le domaine de la culture et des médias. Et donc il faut attendre en réalité, donc je le disais, les enquêtes commencent vers au début des années 70, mais il faut attendre 1997 pour que la lecture de bande dessinée soit identifiée comme une pratique culturelle. Et dans cette étude, dans cette enquête, le profil des lecteurs y est, il faut le reconnaître, quand même assez imprécis. Sont par exemple exclus de l'enquête les lecteurs de moins de 15 ans. Donc ça, c'est le principe en fait des enquêtes des pratiques culturelles des Français. Donc on commence à interroger, à évaluer les tranches à partir de 15 ans. Tout aussi imprécise, la nature des bandes dessinées qui y sont lues. On y parle d'albums de bandes dessinées et aucun moment on ne s'y interroge, par exemple, d'autres modes de lecture possibles, notamment la lecture dans la presse, par exemple, les magazines, les revues. Et toujours dans cette enquête, donc on ne s'interroge pas plus sur les bandes dessinées qui sont concernées, dont il est question. À peine plus éclairantes sont les deux enquêtes commanditées à l'IFOP par le Festival international de la bande dessinée, donc à Angoulême, en 1994 et 2000. La première portait sur les lecteurs réguliers de bande dessinée achetés ou empruntés en bibliothèque, c'est le titre de l'étude, de l'enquête. Donc celle-ci avait été conduite auprès d'un échantillon de plus de 2000 personnes représentatives de la population française, et cette fois-ci, les personnes sondées l'étaient à partir de 8 ans. Le lectorat, dans cette étude, se dessinait un petit peu mieux quand même, puisqu'on y apprenait que le lecteur régulier de bande dessinée se trouve du côté des cadres supérieurs. Donc ça, c'était une des conclusions de cette enquête, et des professions libérales. Donc là, ça faisait partie de la majorité des lecteurs, donc, et que les jeunes entre 8 et 14 ans représentaient à 92%, s'adonnaient à la lecture de bande dessinée. Donc on ne sait pas évidemment à quelle fréquence, mais disons qu'ils étaient lecteurs occasionnels ou réguliers, de bandes dessinées à 92%. Mais quel type de bandes dessinées lisaient-ils? Comment se les procuraient-ils? Là encore, l'enquête était évidemment tout à fait incomplète. Donc je disais qu'il y avait une seconde enquête qui avait été commandée cette fois-ci en 2000, plus exactement d'ailleurs par la Caisse d'Épargne. Toujours auprès de l'IFOP, donc, et pour le compte du FIBD, la Caisse d'Épargne étant toujours d'ailleurs, un des partenaires du FIBD. Alors, je n'ai pas retrouvé le nombre de personnes qui avaient été sondées. Et l'enquête portait sur, c'était donc le titre, « Les Français et la bande dessinée, radiographie des bédéphiles ». Donc, c'était quand même assez orienté quand même dans l'intitulé. Donc, cette enquête, elle, se révélait un peu plus complète que la précédente, puisqu'elle permettait, donc, outre l'origine socio-professionnelle, on était dans les mêmes catégories, grosso modo, que ce qu'on avait identifié en 1994, donc l'origine socio-professionnelle des lecteurs, elle permettait donc de connaître la proportion des lecteurs hommes-femmes, donc les hommes étant numériquement plus importants du côté des lecteurs de bande dessinée, donc le nombre de bandes dessinées lues par tranche d'âge, les modalités d'accès à la bande dessinée, qui avaient donc été aussi interrogées, donc l'achat, l'emprunt, la lecture sur place, en librairie ou dans les rayons de supermarché, par exemple, ou enfin la transmission au sein de la famille, entre copains. Bon. On y évoquait aussi le type de bande dessinée qui remportait le plus de suffrages. Donc il y avait un classement, une liste. Et dans celle-ci, donc, c'était principalement des séries qui apparaissaient. Alors, pour ce qui était des plus jeunes lecteurs, le classement faisait état donc des séries comme Astérix, Tintin, Boule et Bill qui remportaient le plus de suffrages. Et cette même liste était complétée par Blake et Mortimer ou Blueberry pour les plus âgés. Donc ça pourra peut-être aussi, on pourrait s'interroger sur la présence par exemple de Blake et Mortimer qui remporte plus de suffrages du côté du lectorat adulte que du lectorat jeunesse en 2000. Dans les mêmes années, donc, on trouvera encore des indications sur les lecteurs et leur goût de lecture, dans d'autres enquêtes et sondages moins directs, portant sur les loisirs culturels des 6-14 ans. Donc, c'était le titre d'une enquête qu'avait conduite Sylvie Octobre en 2001. Ou encore sur la participation culturelle et sportive des Français, une enquête INSEE de 2003. Ou enfin, mais j'aurais pu allonger la liste d'enquêtes indirectes comme celle-ci, permettant d'avoir une idée du lectorat. Ou enfin, donc sur la fréquentation, une enquête sur la fréquentation des bibliothèques municipales réalisée par le Crédoc pour le compte de la BPI ou avec la BPI, je ne sais plus, en 2005. Enquête que j'ai pas pu explorer. Donc, on pourra d'emblée s'étonner que la question des lecteurs de bande dessinée finalement ne se soit pas posée plus tôt. À cela, sans doute, on trouvera au moins une explication. Je rappelle que la volonté des pouvoirs publics français d'améliorer la connaissance des publics de la culture remonte au début des années 1960. Or, à l'époque, la bande dessinée n'entre pas dans le champ culturel. Ce qui explique donc... Enfin, c'est donc l'explication que je donne, moi, une prise en compte plus tardive du lectorat spécifique de la bande dessinée. En effet, ce n'est qu'en 1966 que la sociologue Evelyne Sulraud, auteur d'un essai intitulé « Bande dessinée et culture », qui est paru donc, cette année-là, en 1966, chez Opéra Mundi, postulait que la bande dessinée se situait dans l'antichambre de la culture. C'était assez neuf hein, dans la formulation, dans l'idée. Et il faudra attendre 1971 pour lire sous la plume de Francis Lacassin, fondateur en 1962 du Centre d'études des littératures d'expression graphique, le CELEG, peut-être que ce nom résonnera dans la tête de certains. Oui, donc il faut attendre 1971 pour lire un texte intitulé « Pour un neuvième art, la bande dessinée », qui était, donc sous la plume de Lacassin, une véritable entreprise de réhabilitation du genre. Et il s'écoulera encore quelques années avant que ne vacille l'idée très établie que la bande dessinée est un simple outil de divertissement destiné à la jeunesse, souvent vu comme de la littérature pour illettrés et préadolescents. Je reviens d'ailleurs à Sulraud, qui, dans BD et culture dont je viens de parler, établissait d'ailleurs un portrait assez éclairant, finalement, du lecteur de bande dessinée de l'époque. Elle dit, je cite, « un peu honteux, sa honte se traduit par une condamnation de lui-même ». Il pense qu'on va le traiter d'enfantin. Il met en doute son propre développement intellectuel. Donc voilà la représentation qu'on pouvait se faire du lecteur de bande dessinée, ou que lui-même, comme le dit Sulraud, peut-être pouvait se faire de lui. Pour compléter ce profil type du lecteur de bande dessinée, il sera longtemps communément admis que cette distraction est largement partagée par des lecteurs qui se recrutent principalement dans les couches populaires. Ça aussi, c'est des notions et des questions qui évidemment seront interrogées, qui ont été interrogées par l'étude dont on parlera tout à l'heure. Alors maintenant, si on se reporte aux origines de la bande dessinée, c'est-à-dire celles sur lesquelles s'entendent désormais les critiques et les historiens, force est de constater que le profil des lecteurs n'est, au début en tout cas, pas exactement celui-ci. Je veux dire enfantin et populaire. On se rappelle par exemple que Rodolphe Töpffer, Suisse genevois, pour la précision, peintre contrarié, abandonna la peinture pour se reconvertir dans la pédagogie et ouvrit un pensionnat. Et donc c'est pour ses élèves qu'il commença à écrire et dessiner ce qu'il appelait des histoires en estampes ou de la littérature en estampes. Ces histoires seraient restées dans l'intimité du pensionnat si un ami de Töpffer n'avait montré certaines de ses histoires à Goethe. Et le maître de Weimar trouva très amusant, je cite, ces livres où il puisa un plaisir extraordinaire, et il trouva le genevois étincelant de talent et d'esprit. Avant de conclure, s'il ne s'appuyait pas sur un texte aussi insignifiant, il inventerait des choses dépassant toutes nos espérances. Quant à Töpffer lui-même, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Réflexion à propos d'un programme » où en fait il décrypte justement cette bande dessinée qu'il est en train d'inventer en 1836. Et donc, dans un passage dans Réflexion à propos d'un programme, il estime, lui, que ces bandes dessinées se lisent dans les salons. Donc, les salons littéraires. Donc, les premiers lecteurs de bandes dessinées, en tout cas au XIXe siècle, au tout début du XIXe siècle, se recrutaient dans les cercles cultivés et plutôt aisés. Passé ses débuts avec Töpffer, la bande dessinée rencontre un lectorat varié avec la publication de feuilletons bon marché, humoristiques, de littérature de gare et surtout de périodiques illustrés avec l'essor des premiers journaux à grande diffusion vers 1880. Ce phénomène marque l'avènement de ce que les sociologues ont appelé après coup, en tout cas, la culture de masse. Et les journaux illustrés pour la jeunesse, alors plutôt bourgeois pour commencer, vont très vite connaître un grand succès auprès d'un lectorat plus large et résolument enfantin. C'est là où se marque en fait la dimension enfantine des lecteurs et son inscription, l'inscription de la bande dessinée dans ce champ. Dès 1880 paraissent les aventures de, j'en citais quelques-unes, hein, Sam et Sap, illustré par Rose Candide dans le journal Saint-Nicolas, donc destiné aux enfants. En 1881, les éditions Hachette publient Mon Journal, revue dans laquelle le célèbre dessinateur Christophe publie ses premières bandes dessinées, ses histoires illustrées. En 1889, ce sont les éditions Armand Collin qui créent le Petit Français illustré, journal pour les écoliers, composé de feuilletons et d'histoires illustrées. Christophe y publiera, à nouveau publie donc dans le Petit Français illustré, quelques-unes de ses bandes dessinées les plus célèbres, Le Sapeur Camembert, Les Malices de Plic et Ploc ou encore La Famille Fenouillard. Il s'agit là donc d'hebdomadaires qui sont plutôt chers à l'achat et qui ne sont donc pas réellement accessibles aux classes populaires, justement. Ça va changer à partir du début du XXe siècle, avec l'arrivée sur le marché de la presse illustrée des frères Offenstadt, qui, à partir de 1903, vont lancer une série de revues et de journaux pour les enfants, pour le jeune public, comme par exemple l'Illustré, qui deviendra le Petit Illustré, un hebdomadaire jeunesse qui sera vendu au prix imbattable de 5 centimes. Je le souligne parce que ça a son importance, c'est-à-dire que ça va permettre justement la faiblesse du prix, la modique somme d'achat de la revue, du journal, évidemment, à un public plus large d'accéder à celle-ci. Et le succès est au rendez-vous. Les frères Offenstadt vont continuer ainsi dans leur politique, leur démarche, leur stratégie éditoriale en publiant donc plusieurs autres journaux pour la jeunesse. Il y aura notamment Fillette qui, lui, sera destiné plutôt aux jeunes filles. On citera encore La Semaine de Suzette, Les Patents. Alors, La Semaine de Suzette, c'est dans cette revue que paraissent les premières histoires de Bécassine à partir de 1905. Et puis en 1908, donc, Les Patents nous proposera les premières histoires des Pieds Nickelés réalisées par Forton. Donc, dès la fin du 19e, début du 20e siècle, les bandes dessinées sont donc majoritairement humoristiques, vaguement éducatives, voire moralisatrices. Leur diffusion se restreint à la sphère enfantine, du coup, et elle touche très vite de nombreuses couches sociales de la population. C'est dans ce contexte de massification que l'on rencontre les premières prises en compte du lectorat de la bande dessinée. Au début du XXe siècle, alors qui va manifester cette prise en compte? Ce sont les pédagogues. les pédagogues, pardon, des écoles laïques et catholiques qui entreprennent une véritable croisade contre les débordements des journaux populaires destinés aux enfants. J'ai relevé, par exemple, dans un essai publié en 1907, sous la plume d'un certain Marcel Braunschweig, qui s'intitule « L'art et l'enfant, essai sur l'éducation esthétique », donc ce Marcel Braunschweig met en garde contre ses publications, donc ses publications d'illustrés, au nom du bon sens, du bon goût qu'elles outragent impunément. Pour les catholiques, le principal critère entre les bons et les mauvais périodiques est celui du respect de la propagation des valeurs chrétiennes. Donc là, elles sont traquées. Enfin, il y a des ouvrages qui sont mis à l'index, des recommandations. Les pieds nickelés, par exemple, sont tout à fait déconseillés par nos ligues catholiques. Cette campagne prendra plus de vigueur au moment où les bandes dessinées américaines vont débarquer sur le sol français, ou plus largement d'ailleurs sur le sol européen. Ces illustrés seront accusés de rendre les jeunes violents, de les débaucher en leur donnant à voir des hommes de la jungle sauvage et des femmes peu vêtues au pouvoir sensuel important, je le souligne. Des groupes de pression composés d'éducateurs de ligues de moralité, dont la fameuse Ligue française pour le relèvement de la moralité publique, des associations parentales, d'enseignants, de bibliothécaires, des mouvements de jeunesse et des mouvements religieux, bien évidemment, je l'ai déjà dit, obtiennent la création, même ou obtiendront la création d'un nouveau délit de démoralisation de la jeunesse. Et un certain nombre d'actions, donc dans les années 30, vont voir le jour, dont certaines assez importantes, qui reposeront donc notamment sur des campagnes assez offensives, des campagnes de presse, mais aussi sur une multiplication d'initiatives, comme par exemple l'appel au boycott des kiosques qui vendaient ces publications. Il en va de même d'ailleurs du côté des bibliothèques de lecture publique. Là, je cite mon camarade Benoît Berthoux, qui rapporte que la bande dessinée fit l'objet de condamnations, sans appel de la part de bibliothécaires, comme Mathilde Leriche, notamment à travers son essai sur l'état actuel des périodiques pour enfants, publié en 1935, et que la bande dessinée se verra même totalement bannie de nombreux établissements, à commencer par l'Heure Joyeuse, au nom d'une certaine idée de la lecture. La lecture de bande dessinée n'étant pas considérée comme une lecture noble, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Tout ceci débouche en 1949 donc sur l'adoption de la loi sur les publications destinées à la jeunesse, la loi du 16 juillet 1949, qui place donc la presse illustrée sous un véritable régime de liberté surveillée. Je rappelle par exemple, selon l'article 2 de la dite loi, que ces publications destinées à l'enfance et à l'adolescence ne doivent présenter aucune illustration, aucun récit, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés crime ou délit ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Donc, vous voyez le délit de démoralisation de la jeunesse qui va principalement, à travers cette loi, s'incarner, encore une fois, dans la bande dessinée, qui va connaître, avec le temps, avec les années, un certain nombre de poursuites, de condamnations, d'interdictions à la présentation, à la vente, jusqu'à il y a peu, hein, même si la loi a été amendée avec le temps, il y a eu encore, dans le cours des années 2000, quelques condamnations qui se sont portées, notamment sur les bandes dessinées qui ont fait l'objet de recommandations, étaient essentiellement des mangas. Alors, ces prises en compte de lecteurs ne sont, dans la plupart des cas, enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'éléments qui me permettent de penser le contraire, donc elles ne sont pas étayées par des enquêtes, des sondages. Le fait, par exemple, que la lecture de bandes dessinées pourrait amener à devenir délinquant n'est évidemment étayé par aucune étude, comme par exemple une corrélation qui pourrait s'établir entre une recrudescence constatée de la délinquance juvénile et donc leur lecture. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ça permet un petit excursus. Où l'on assiste donc à peu près à la même époque, au sortir de la guerre, à un mouvement un peu comparable de moralisation. D'ailleurs, c'est un phénomène qu'on va observer un peu partout dans les pays de grandes traditions et de culture de bande dessinée. Au Japon, on aura un peu l'équivalent après la guerre ou un petit peu plus tard. Donc aux États-Unis, la croisade contre les bandes dessinées est portée par un psychiatre, Frédéric Vertam, qui, à partir de 1946, publie des articles sur la nocivité des bandes dessinées. Je cite par exemple un titre éloquent qui est « Horror in the Nursery », qui en fait renvoie, qui renvoie aux principales bandes dessinées que Vertam condamne, qui sont les, ce qu'on appelle les comics, « horror comics », donc qui présentent des séries plutôt destinées d'ailleurs à un lectorat adulte. Mais son influence, donc l'influence de Vertam, atteint des sommets avec la publication de « Seduction of the Innocent » en 1954, dont il ressort que la bande dessinée, la lecture pardon, de comics pousse les jeunes au crime. Cette publication va coïncider avec les travaux d'une commission d'enquête du Congrès sur la délinquance juvénile qui corrobore les thèses de Vertam. Il est possible d'ailleurs de lire hein, les actes et les attendus de cette commission, c'est assez édifiant tout de même. Donc il corrobore les thèses de Vertam qui s'appuie lui par ailleurs sur des enquêtes qui ont été menées auprès de lecteurs. Nous avons par exemple retrouvé une étude, la première dont il est fait mention, j'ai pas trouvé autre chose en tout cas pour l'époque, conduite en 1948 par Catherine Wolfe et Marjorie Fiske, deux sociopsychologues, chercheuse à la Columbia University, auprès de 248 enfants. On ne sait pas qui étaient ces enfants, si c'était des délinquants, primo-délinquants, ou des, on ne sait pas comment s'est établie cette enquête, toujours est-il. Donc on parle de 248 enfants, on ne connaît pas bien les tranches non plus, la tranche d'âge, mais lecteurs de comic books. Et cette enquête est restituée dans un article qui s'intitule « The Children Talk About Comics », publié en 1949, donc. Nos deux chercheuses démontrent que les lecteurs ont un attachement pathologique, je cite, à leur lecture qu'elles comparent à une addiction à la morphine. Les lecteurs y sont décrits comme incapables de raconter une histoire cohérente. Et expliquent nos deux chercheuses leur relation à la société, qu'ils rejettent hein, dans l'ensemble, se construit à la lumière de leur lecture de comic books. Alors, je me suis posé la question de savoir si, finalement, les lecteurs qu'elle avait interrogés n'étaient pas des lecteurs d'une série qui est totalement inconnue en France, qui s'appelle Super Snipe Comics, qui est une parodie en réalité de série de super-héros, dont le personnage principal est un super lecteur de comics, et qui vit sa vie par procuration, et qui la vit en fait en lisant des histoires de Superman, Batman, etc. Donc peut-être que c'est ce que les jeunes ont raconté à nos deux chercheuses. Et... Alors, je vais assez rapidement, on va terminer. Difficile donc en somme de se faire une idée du lectorat de la bande dessinée en dehors finalement d'idées reçues. Les seules sources à notre disposition pour se représenter en creux donc les lecteurs et leur lecture durant toutes ces années sont constituées par un vaste ensemble de données lacunaires à glaner par exemple dans des archives de maisons d'édition. Enfin, en tout cas, il y a un travail qui serait évidemment à mener dans les archives des maisons d'édition. Qui nous permettrait d'établir, donc, à partir du nombre, par exemple, d'exemplaires publiés et vendus, le nombre d'abonnés quand c'est conservé, aux illustrés, les courriers des lecteurs dans les journaux, des indications sur le volume des lecteurs, leurs origines, etc. Bon, ces travaux n'existent pas réellement, hein, enfin, ou les goûts des lecteurs. En procédant par recoupement, on en vient à présumer, simplement comme ça, hein, par exemple, que la bande dessinée n'a sans doute pas attendu les années 1960 pour connaître ses premiers lecteurs. On suppose que dès les années d'après-guerre, des lecteurs adultes lisaient des bandes dessinées publiées dans les grands quotidiens de presse, puisqu'il en paraissait dans L'Humanité, dans France Soir. Donc on peut imaginer quand même que ces lectures-là s'adressaient, ou en tout cas pouvaient concerner un lectorat adulte. On sait aussi, puisqu'on commence à s'intéresser depuis quelques années à ce qu'on appelle les petits formats, donc les... toute cette bande dessinée qui était publiée en très gros volume, en très grande quantité à partir de la fin de la guerre, n'était pas lue évidemment que par des enfants. Quand on regarde la transmission de ces ouvrages au sein des familles, c'était généralement d'ailleurs même des adultes ou des jeunes adultes qui les achetaient. Et puis les volumes étaient considérables. Hein. On parle parfois, pour certaines séries, certains titres, d'un million d'exemplaires. Donc on peut quand même supposer que... là-dedans, il n'y avait pas que des jeunes lecteurs. On peut aussi observer avec les années l'avènement d'un réseau de pratiques sociales et culturelles qui se greffent autour de la bande dessinée. Les revues jouent un rôle important dans ce registre. On pense par exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres, à la proximité entre le journal de Spirou et ses lecteurs, qui était basé, entretenu à ses débuts par la création de clubs, comme les célèbres ADS, les Amis de Spirou, ou encore le CSA, le Club Spirou Aviation, et elle a été ensuite cultivée grâce à une rubrique courrier régulièrement alimentée. Ça, c'est les rubriques courrier, dans les revues sont très très importantes, très indicatives de qui lit. Et de ce qu'aiment les lecteurs. D'ailleurs, il y a même certaines revues qui s'appuyaient faisaient des sondages pour connaître les séries préférées des lecteurs et en tirer aussi des conclusions éditoriales. Et donc, à travers ces pratiques observées, il est possible d'évaluer que les lecteurs, il aurait été possible en tout cas d'évaluer que les lecteurs étudient la bande dessinée, l'analysent, la comparent avec d'autres modes d'expression, la collectionne, la critique, la prête, l'emprunte, la revende, ou plus tard participe à des festivals. Donc, toute cette activité socio-culturelle existante, qui a toujours fait, on n'a quasiment jamais parlé, qui s'est faite toute seule en réalité, sans qu'on en parle, ou qu'on en tire des enseignements. Et alors parfois, pour terminer, la lecture du lecteur surgit même dans les bandes dessinées. Si on lit attentivement, rappelez-vous, si on lit attentivement Gottlieb, celui-ci nous explique que, enfin, il faudrait établir à partir de lui que le lecteur de bande dessinée est un jeune garçon habitant dans le Var et que généralement il se nomme Jean-Pierre Liégeois. Mais bon, de là à établir des conclusions scientifiques sur le profil des lecteurs, c'est peut-être un petit peu rapide. Je me demande d'ailleurs s'il serait plus sérieux de se fier à cette définition de Pierre Christin, le scénariste bien connu, qui considère que la bande dessinée est un média interclasse qui réunit les lecteurs cultivés et les amateurs de franche rigolade. Bon, je pense que on va en apprendre un petit peu plus sur les lecteurs, les habitudes de lecture, leur goût, etc., et même l'établissement de leur profil à travers les interventions qui vont se succéder aujourd'hui. Benoît ?
Oui, ben, je voudrais juste dire quelques mots pour prolonger les réflexions présentées par mon ami Jean-Philippe Martin, puisqu'elles mettent quand même clairement en évidence un fait, ou plutôt un manque, notamment quand Jean-Philippe dit que les seules sources nous disposons sont des données lacunaires, et effectivement, quand même forcé de constater qu'à cet égard, la bande dessinée fait aujourd'hui presque office de cas d'école. En gros, on a peu d'informations sur son lectorat, on le connaît mal, on le connaît peu, on a peu de connaissances des pratiques qui lui sont liées, la collection, la prescription, le partage, et on a même peu d'expertise quant à son mode d'expression, parce que c'est encore un langage qui est mal compris, qui n'est pas forcément bien valorisé, avec un patrimoine qui est inexploré. Donc travailler sur la bande dessinée pendant longtemps, et encore aujourd'hui à bien des égards, c'est travailler un peu dans l'inconnu, ou plutôt sur l'inconnu, puisqu'on a peu ou pas de données, pas ou peu d'ouvrages de référence, pas ou peu d'experts, et pas ou peu de collections patrimoniales. Et il y a une espèce de paradoxe, parce que là, il y a quand même un fait, c'est que cette bande dessinée, elle occupe une place qui est à bien des égards centrale au sein de nos pratiques culturelles et plus largement dans notre rapport à la culture. Par place centrale, j'entends place qui permet de formuler des problèmes et d'esquisser des solutions en termes de propositions créatives, de dispositifs économiques et de politiques publiques. Alors pourquoi une place centrale ? D'abord parce qu'elle nous invite, cette bande dessinée, à penser, à mieux connaître, peut-être à comprendre, l'ensemble des systèmes médiatiques au sein desquels nous opérons, c'est-à-dire l'ensemble des dispositifs qui nous permettent tous d'accéder à la création, à l'information, au partage de connaissances ou de sensations. Elle nous invite par exemple à mieux les penser d'abord au niveau du patrimoine de cette bande dessinée, puisque comme l'a rappelé Jean-Philippe, on est face à une forme d'expression qui n'est pas née dans le livre, qui ne s'est pas développée à travers le livre, et qui semble être presque constamment dotée d'une capacité à quitter le livre, via l'adaptation, les produits dérivés, etc. Travailler sur la bande dessinée, c'est brasser un ensemble de supports très différents, parfois totalement oubliés par nombre de nos institutions, qu'elles aient trait à la recherche ou à la conservation. Par exemple, la presse, on voit qu'aujourd'hui, on a accès, tout chercheur, à d'immenses quantités de fascicules et de périodiques qui restent encore à bulletiner et à valoriser. Là, il faudrait quand même saluer le travail que fait la Cité internationale de la bande dessinée de l'image, notamment Catherine Ferrérol et Catherine Ternaud, avec la numérisation, effectivement, de collections de presse. Et ça a également été l'un des axes d'interrogation de l'étude dont on va vous présenter aujourd'hui les premiers résultats, puisqu'il y avait effectivement des questions sur la lecture de presse et sur la lecture, plus généralement, de toutes sortes d'écrans. Cette question du patrimoine, d'autre part, elle nous invite à mieux penser celle du livre et à la mettre en perspective, puisque là, sur ce plan, la bande dessinée occupe quand même également une place de choix. On est clairement face à l'un des secteurs éditoriaux qui s'est le plus radicalement transformé dans ces 20 dernières années. Tellement transformé, à vrai dire, qu'on peine à le reconnaître. On a des nouvelles propositions éditoriales, on a une richesse quand même sans précédent dans l'histoire de la bande dessinée, voire dans l'histoire de l'art graphique. Tant au niveau géographique, puisqu'on a quand même des croisements d'aires culturelles différentes, qu'au niveau thématique, avec le registre de l'imaginaire, de l'actualité, voire de l'intime, et tout ce qu'on veut. Ce secteur, il s'est transformé, il est en un sens devenu le symbole même des problématiques contemporaines inhérentes à notre système éditorial, problématiques comme celle de l'indépendance et plus largement de la diversité des structures éditoriales et de leurs projets, problématiques comme celle de la prescription, de la capacité à indiquer et à valoriser des propositions de bande dessinée. Là aussi, ça a été un des objectifs de cette étude, hein, notamment de mettre en évidence hein, le rôle des métiers du livre, par exemple les libraires et les bibliothécaires, dont il sera question. Hein, et on verra notamment, je pense avec l'intervention de Gilles et Xavier, eh ben, le lien très fort qui unit bande dessinée et bibliothèque, hein, qui là, pour le coup, est vraiment structurant. Alors, ce nouveau rapport au livre, bah, il invite quand même également à mieux mettre et en perspective, à mieux penser notre rapport à d'autres espaces de création. Et sur ce point, bah, la bande dessinée, elle occupe quand même également une place de choix, puisqu'elle permet de penser bah, tout simplement le problème de notre rapport à deux notions qui sont quand même au fondement de nos pratiques culturelles, à savoir l'image et l'écrit. Bah, ces notions, elles sont immanentes à la bande dessinée, mais ce sont surtout des notions quand même bah, qu'elle nous invite à penser en termes de complémentarité plutôt que de rivalité ou d'opposition. Et là, il y a également quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité au niveau de l'acte de lecture lui-même, et on peut se demander, bah, tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée ? Je ne vais pas répondre, mais enfin, on peut se demander si ce n'est pas une forme d'écrit enrichi, c'est-à-dire un écrit qui ne se limite pas à la topographie, ni même à la calligraphie. En gros, un écrit qui mobilise des formes nettement plus variées, hein, qui se rapproche en ça de l'image, mais qui nous invite surtout à penser à moyen terme et à nous interroger. En gros, nos attentes, nos désirs, notre appétit, pour dire ça comme ça, vis-à-vis de l'écrit, eh bien, n'ont-ils pas radicalement changé ? Et est-ce qu'il ne suppose pas, du coup, des procédures de lecture plus complexes, ou du moins encore inconnues, et qui restent pour une bonne part à expliciter ? Bah, dans notre étude, effectivement, nombre de questions portent sur le dessin, et par exemple les pratiques amateurs de bande dessinée, hein, étant d'éclairer, effectivement, cet item. Complémentarité également au niveau des pratiques culturelles et des propositions culturelles, notamment entre celles qui relèvent du livre et celles qu'on pourrait dire relevées de l'audiovisuel, même si le terme a aujourd'hui quelque chose d'un peu suranné, audiovisuel. Bon, en tout cas, il y a peut-être un problème qui est immanent à la bande dessinée. Alors, c'est du moins dans cette optique qu'elle a été présentée au sein d'une étude européenne que j'en suis, non, qui l'a pas cité, qui s'appelait Les jeunes et la culture de l'écran, qui a été réalisée par Josiane Jouette et Dominique Pasquier, qui a été pionnière à bien des égards, hein, notamment, eh ben, parce qu'elle cherchait à distinguer des articulations entre ce qu'ils appelaient des cultures de l'écran et des cultures de l'imprimé. Et c'est effectivement quelque chose que nous invite à faire la bande dessinée. Alors, déjà, par sa capacité à s'approprier et à s'apparenter toutes sortes d'images, hein, par exemple, comme peut le signifier quelqu'un comme Thierry Smolderen, hein, qui est enseignant Angoulême, qui dit que pour lui, la bande dessinée, c'est de l'audiovisuel sur papier. Mais également par sa capacité à voyager sur toutes sortes de supports, c'est-à-dire les écrans, et surtout les nouveaux écrans, dont l'étude menée par Olivier Donat hein, a bien mis en évidence la constante progression au sein de nos sociétés. Et enfin, quand même, par son inscription dans une certaine culture du divertissement, bah, culture qui reste quand même à expliciter, ça c'est peut-être la dernière chose que la bande dessinée nous invite à mieux penser, une culture qui existe hors de ces traditionnels modes de hiérarchisation, vous voyez, des notions comme populaire, savant, noble, vulgaire, haut, bas, bah, c'est-à-dire finalement des notions qui sont des avatars historiques et médiatiques hein, d'une opposition aussi fondamentale que sacrée et profane, eh bien les questions, ce seraient ces notions et ces oppositions, est-ce qu'elles font sens dans le cas de la bande dessinée ? Est-ce qu'on ne tente pas en quelque sorte de les importer dans un champ qu'elles ne structurent pas pleinement ? Et est-ce qu'on peut par exemple pas penser que parlant de bande dessinée, nous sommes face à un champ bah, qu'on peut penser en termes de projets, en termes de registres dans lesquels cohabitent différents types de productions et au sein desquels les lecteurs peuvent s'orienter. On pourrait se demander, par exemple, si le grand lecteur de bande dessinée, bah, ce n'est pas un amateur d'art graphique qui passe d'un livre d'Emmanuel Guibert publié à l'association à la lecture de Black Sad et qui sait prendre ces deux œuvres pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même prétention artistique et elles n'ont pas la même inscription dans l'art du dessin. Finalement, le lecteur eh ben, serait quelqu'un qui n'est pas dupe, mais qui, à l'inverse, est averti, voire expert, et que l'on devrait penser comme tel, à l'instar d'auteurs qui, aujourd'hui, n'hésitent pas à alterner des productions grand public et, on dira, d'avant-garde, hein, comme par exemple Rupert et Mulot, hein, avec la grande Odalisque. En tout cas, il y a nombre de questions, alors qu'ils sont toutes essentielles à notre culture et aux actuelles pratiques qui lui sont liées, qui sont toutes intéressantes pour des acteurs du livre très divers. Et la journée, aujourd'hui, eh ben, est clairement la manifestation d'une volonté qui a été de prendre ces questions au sérieux, de les poser et de les traiter à travers une réelle coopération hein, entre plusieurs institutions. Les premières, évidemment, le ministère de la Culture et la BPI, hein, qui sont représentées, entre autres, donc, par Christophe Evans. Alors qu'on va entendre dans quelques minutes, on n'oubliera quand même pas Françoise Godet, hein, qui a également été à l'origine du projet. Alors, qui ont commandé, effectivement, cette étude, hein, qui est une étude ambitieuse, hein, puisqu'elle porte quand même sur 5000 personnes interrogées, c'est-à-dire qu'en gros, elle est aussi grande que l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, hein, si on en croit la méthodologie qui a été publiée par Olivier Donat. Échantillon qui a été établi et contacté hein, par une société qui s'appelle TMO, en la personne de Jacques Bognot. Coopération également avec la Cité, hein, qui a d'emblée été impliquée dans le projet, qui a eu la volonté de lui donner une véritable publicité et de la considérer comme structurante. Dans le prolongement d'ailleurs des réflexions de Gilles Simon, hein, parce que Gilles citait tout à l'heure la première université d'été de la bande dessinée, et dans cette université, il posait une question qui est à bien des égards au cœur de l'enquête, en se demandant si la faiblesse de la bande dessinée ne réside pas dans ses médiations, autrement dit dans l'ensemble des dispositifs qui sont susceptibles de l'expliciter, de le valoriser, d'asseoir sa légitimité. Coopération avec deux universités, alors celle de Limoges qui est représentée par Sylvain Aquatias et Natacha Levet, qui ont tous les deux immédiatement été enthousiastes vis-à-vis du projet, qui ont également su le faire mourir, su le faire mûrir, pas mourir, hein, grâce à des recherches qui portent quand même sur des domaines voisins, hein, puisque Natacha travaille notamment dans le domaine de la littérature populaire et Sylvain dans celui des cultures juvéniles. Et enfin, l'Université Paris 13, qui est représentée par moi-même, qui a apporté le soutien d'un centre de recherche de référence en ce qui concerne les métiers du livre, hein, à savoir le Lapsic, dirigé par Bertrand Legendre, ainsi que d'une revue, hein, Comicalité, études de culture graphique, dans lesquelles seront publiées, hein, certaines des communications que vous entendrez dans cette journée. Alors cette journée a vocation à livrer les premiers résultats de l'exploitation de cette enquête, hein, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une première publication réalisée par Christophe et Françoise Godet, hein, qui a d'ailleurs été publiée sur le site de la Cité. Là, on est à un second niveau avec des traitements plus complets de l'ensemble de la base de données statistiques qui aboutira à la publication d'un ouvrage, alors dont le titre encore provisoire est « La bande dessinée, quelle lecture, quelle culture », qui sera publié aux éditions de la BPI et en partie sur le site donc de 9e art 2.0, qui est la revue gérée par la Cité de la bande dessinée et de l'image. Donc aujourd'hui, vous allez entendre les auteurs de cet ouvrage, hein, sachant qu'il y a deux absents, Éric Maigret et Xavier Guilbert, qui n'ont pas pu être parmi nous. Alors, afin de vous donner un aperçu assez complet de notre travail, donc on a sélectionné trois approches du lectorat auxquelles nous nous intéressons dans l'étude. La première par profil, en gros, en se demandant si les publics de la bande dessinée peuvent être modélisés, voire catégorisé. Alors ce sera l'objet de l'intervention de Christophe. Alors je vous rassure, son intervention sera beaucoup moins scabreuse que son titre, hein, qui est H-sex-livre. Alors la seconde approche, ce sera par goût, hein, interroger l'entrée, la sortie et la transmission d'une pratique, hein, à savoir la lecture de la bande dessinée, ce sera le travail de Sylvain. Et la troisième approche, par circulation, hein, à savoir questionner le mode d'inscription de la bande dessinée au sein de nos sociétés, en gros, quels espaces elles investissent, quel mode d'accès elles déterminent avec le travail de Gilles et Xavier. Alors, afin de mettre en perspective le travail de ces auteurs, on a souhaité faire place à cinq conférenciers que vous allez découvrir, à savoir Jean-Christophe Boudet, Pierre-Laurent Dorès, Yann Madet, Pascal Lefebvre et Patrick Gentilhomme. Donc, je leur laisserai le soin de se présenter et on finira par une table ronde qui regroupera des bibliothécaires, des éditeurs. Alors, par contre, je ne sais pas si c'était indiqué, mais je ne sais pas si tu as dit, Christophe, qu'il y avait l'annulation, je crois, de la visite de l'espace Nouvelle Génération.
Qui était effectivement initialement prévu, ouais. qui, pour des raisons techniques, ne peut pas être proposé ce soir, mais bon, l'espace ouvrira prochainement, je crois. Et,
absolument. Alors, vous verrez les responsables de cet espace.
Oui.
Alors juste à noter, alors, seront absentes deux problématiques alors qui n'ont pas été retenues faute de temps et on a préféré se concentrer sur des items qui semblaient directement susceptibles de vous intéresser. Alors elles seront présentes dans l'ouvrage, celle de la légitimité, puisqu'effectivement c'est le travail d'Éric Maigret, qui ne peut pas être présent non plus, et celle de la relation entre le lectorat de la bande dessinée et d'autres médias, qui est mon propre travail, et qu'on présentera un peu par la bande, mais pas forcément directement. Mais grosso modo, cette journée se poursuivra sous d'autres formes qui seront à votre disposition, hein, parce que après, ce sera un livre qui sera disponible en open access, hein, sur le site de la PPI. Et donc, ben, on souhaite que cette journée serve d'introduction à un questionnement qui ne manquera pas de se poursuivre.
Merci Benoît. On va céder la place à Christophe Evans pour sans plus perdre de temps d'ailleurs, parce qu'on en a mangé un tout petit peu.